VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le chef de l'opposition mozambicaine, Alfonso Dhlakama, a annoncé aujourd'hui la prolongation sans nouvelle limite de la trêve militaire entamée en décembre dernier entre la faction armée de son parti, la RENAMO, et les troupes gouvernementales dans le centre du pays. J'annonce aujourd'hui une trêve sans nouvelle limite, a déclaré Alfonso Dhlakama lors d'une conférence de presse téléphonique à Maputo. Cela ne signifie pas la fin de la guerre, mais le début de la fin de la guerre, a-t-il ajouté. Le président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed a écourté aujourd'hui un déplacement en Éthiopie après la mort de son ministre des Travaux publics, tué par erreur par un garde de sécurité sur laquelle il a ordonné une enquête approfondie. Le ministre somalien des Travaux publics, Abdoulaye Siradji, a été tué mercredi à Mogadiscio dans un incident impliquant un garde du corps d'un autre officiel somalien qui aurait tiré par erreur sur le véhicule du ministre. Au Sénégal, le départ du ministre de l'Énergie du gouvernement fait débat. On raconte à Dakar que l'ancien ministre aurait refusé de signer la cession de deux blocs d'exploration pétrolière au groupe français Total. Tierno Alassane Sall avait déjà été limogé du gouvernement en 2014 suite à sa défaite aux élections locales dans la ville de Thiès, où il est le coordonnateur de la majorité au pouvoir. Ce nouveau limogeage soulève beaucoup de questions sur la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Le député Cheikh Oumar Sy appelle à une plus grande transparence dans cette affaire.
Tout le monde sait que le Sénégal aujourd'hui a du pétrole et du gaz. Qu'est-ce qui a poussé le ministre à démissionner? Qu'est-ce qui a poussé le président à le limoger? Le plus important pour le citoyen sénégalais aujourd'hui, c'est de savoir et de connaître objectivement si ces questions-là sont liées au cas de Petrotim ou c'est lié à l'acquisition de Total des blocs au niveau du fisc. Donc c'est une question fondamentale parce que juste après son limogeage, Total a signé des contrats avec le gouvernement du Sénégal le même jour, presque à une heure de temps de différence. Donc nous souhaiterons en tant que Sénégalais être édifiés.
Cheikh Oumar Sy, député sénégalais. En RDC, l'épiscopat catholique a plaidé dans un rapport confidentiel auprès du président Joseph Kabila pour que l'opposant Moïse Katumbi retourne en homme libre dans son pays après un an d'exil. M. Katumbi, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, a été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'immeubles appartenant à un ressortissant grec. Moïse Katumbi attend aussi de comparaître devant la justice pour une affaire de recrutement présumé de mercenaires. Les autorités ont promis de l'arrêter dès son retour au pays.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Quelques 23 millions d'Algériens sont appelés aujourd'hui aux urnes pour renouveler l'Assemblée nationale, mais l'abstention s'annonce élevée après une campagne sans élan ni surprise. 12 000 candidats sont en lice pour les 462 sièges de l'Assemblée nationale populaire, la chambre basse du Parlement. 45 000 policiers sont déployés autour des centres de vote pour assurer la sécurité du scrutin, qui fait suite à une campagne plutôt calme. Choc frontal et virulent hier lors du débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, finaliste de la présidentielle française. À 4 jours du second tour décisif dimanche, les échanges entre les deux candidats au programme diamétralement opposé ont souvent viré à la cacophonie et au pugilat verbal au terme d'une campagne très tendue. Vincent Hédin, professeur de rhétorique politique à Sciences Po, a fait le constat d'un débat en deçà des espérances.
C'est une défaite pour le débat républicain parce que c'était très abaissé. Je pense que Marine Le Pen a tenté son va-tout et du coup elle a vraiment baissé le niveau du débat en étant extrêmement agressive et en étant dans le registre de l'insulte. Et Macron a été surpris, il a essayé de contre-attaquer, mais au final, ce que je retiens, c'est surtout un mauvais débat. Je pense pas que ça aura un impact considérable, comme souvent. Là, on a quand même vraiment vu les limites de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle a pas de stature présidentielle. Contrairement à Donald Trump, même de façon délirante, elle avait pas de projet pour éradiquer le terrorisme, pour sortir de l'Europe, etc. Macron est apparu comme beaucoup plus calme et beaucoup plus posé. Vous savez, aujourd'hui, la campagne, elle se fait surtout après le débat, c'est-à-dire que maintenant, les équipes de militants vont relayer les bons passages, les bonnes séquences, les petites phrases sur les réseaux sociaux. Et très honnêtement, c'est ça qui va peser jusqu'à samedi. Mais il n'y a pas eu le basculement majeur. Donc comme c'est Emmanuel Macron qui était très en avance dans les sondages, c'est plutôt lui qui ressort conforté du débat.
Vincent Hédin, professeur de rhétorique politique à Sciences Po. En pleine tension avec Bruxelles sur le Brexit, la première ministre britannique Theresa May passe aujourd'hui son premier grand test électoral avec le renouvellement d'instances locales dont le résultat sera scruté à la loupe en vue des législatives anticipées. De l'Angleterre à l'Écosse en passant par le Pays de Galles, les Britanniques sont appelés à renouveler près de 5000 sièges de conseils locaux. Les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin et resteront ouverts jusqu'à 22 heures, le résultat étant attendu pour vendredi dans la journée. À Washington, il est 7h05.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Les États-Unis mobilisent leurs alliés d'Asie du Sud-Est pour faire face à ce que de hauts responsables américains ont appelé la priorité numéro un des États-Unis en matière de sécurité nationale, les menaces posées par le nucléaire et les missiles nord-coréens. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, tiennent une réunion aujourd'hui à Washington. L'administration Trump, selon un officiel du Département d'État, exhorte ces nations, en haute mesure, à couper leurs liens diplomatiques avec Pyongyang. Et le président Donald Trump rencontre ce jeudi à New York le premier ministre australien Malcolm Turnbull. C'est le premier retour du chef de l'exécutif américain dans sa ville natale depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Si le président Trump reste populaire chez ses électeurs, ce n'est pas tout à fait le cas à New York. Reportage, Tina Trin, récit Lionel Gaïma.
Tout le monde est le bienvenu à New York, clame cette publicité de la mégalopole avec ses plus de 8,5 millions d'habitants. Pourtant, il n'y a pas de garantie que l'accueil qu'elle réservera à l'un de ses fils les plus célèbres, le président Donald Trump, sera chaleureuse.
He's not welcome here.
Il n'est pas le bienvenu ici, déclare sans embâge Amanda Johnson, directrice du parti de famille laborieuse qui attend se joindre à d'autres manifestants contre la venue du président Trump. Et n'est pas la seule. Souther Teague et Ravi De Rossi ont ouvert un bar où des gens peuvent faire des dons à des organisations dont l'existence est menacée par la politique de Donald Trump. L'un des clients dit qu'il supporte de plus en plus mal cette administration. 100 jours, et je souhaite que la souffrance diminue, mais ce n'est pas le cas. Chaque jour, on est à se demander, qu'est-ce qui se passe au juste ? Bien entendu, tous les Américains ne vivent pas dans les grandes villes comme New York, explique Marc Moreau de la Brookings Institution, un groupe de réflexion de Washington.
We have other less urban places in which people are living.
Nous avons d'autres endroits moins urbanisés où la population est moins dense, plus rurale et souvent au chômage. Donald Trump a été un candidat du monde rural qui a attiré beaucoup d'électeurs dans les zones rurales peu peuplées.
Populated counties.
Trump a remporté 2584 comtés contre 472 pour Hillary Clinton. Toutefois, la Brookings Institution révèle que les comtés gagnés par Trump contribuent pour moins au PIB des États-Unis, soit 36% contre 64% pour ceux ayant voté pour Madame Clinton. Donald Trump a perdu la ville de New York par une marge d'un vote sur cinq. Les sentiments de la grande métropole à son sujet n'ont pas changé depuis la présidentielle de novembre. Soutient Amanda Johnson du Parti des familles laborieuses.
Nous apprécions le succès des gens qui s'efforcent de réaliser leurs rêves. Cette ville, c'est celle des débrouillards. À ce que je comprends, lui a réussi en foulant aux pieds les gens et nous n'acceptons pas cela.
Cela n'empêchera pas pour autant le président Trump de s'entretenir avec le premier ministre australien Malcolm Turnbull à bord de l'USS Intrepid, un ancien porte-avions transformé en musée sur le fleuve Hudson à New York.
Et la Chambre des représentants doit voter aujourd'hui sur un projet d'abrogation et de remplacement de l'Obamacare, le programme d'assurance maladie de l'ancien président Barack Obama. Le leader de la majorité républicaine au Congrès, Kevin McCarthy, qui a annoncé ce vote, assure que le nombre requis de voix est maintenant réuni pour l'adoption du projet. Après l'échec du 24 mars dernier, la minorité démocrate reste toutefois opposée à la dernière mouture de ce projet. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans exactement 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.